Donc j'ai fait appel au meilleur de la technologie sur BFM Business pour m'accompagner, Anthony Morel, bienvenue.
Merci.
Qui va co-animer ou même intervenir dans cette émission très largement. Également Frédéric Simotel de BFM Business.
Bonjour, Nicolas. Bonjour.
Frédéric, il écoute souvent les experts, il m'envoie des petits textos pendant l'émission quand il faut.
Pour dire qu'on parle pas assez de tech.
Voilà. Oui, il me dit toujours, mais il faudrait faire de la tech, Alexandra Roulet, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue. Professeur à l'INSEAD, membre du Conseil d'analyse économique et du Cercle des économistes. Ah ben, il y a deux membres du Cercle aujourd'hui, puisque Jean-Hervé Lorenzi est avec nous. Bonjour Jean-Hervé.
Et heureusement qu'il n'y a pas dit les deux meilleurs.
Bon, non, mais je ne suis pas comme ça, moi. Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, ce sont les 3, 4 et 5 juillet.
Oui.
Alors, BFM Business sera en direct le 4 juillet. Pour les experts, et je pense d'ailleurs la matinale aussi, depuis Aix-en-Provence.
C'était déjà l'année dernière le plus gros événement en Europe, économique et sociale ouvert à tous. Je rappelle qu'il y a eu 1 million de personnes qui sont connectées, et cette année, mais j'aurai l'occasion sûrement de le redire en se rapprochant de l'événement, ce sera en réalité un saut quantique absolument majeur sur le... Enfin, quand je dis quantique majeur, je m'exprime déjà mal en matière de technologie, pardon. Et tout simplement parce que il y a au moins 2 événements essentiels. Le premier, c'est que nous transformons la ville d'Aix en ville de l'économie. Donc, un peu comme il y a des... À Blois, ils transforment la ville de Blois en histoire. Et deuxième aspect, il y a 38... personnes qui représentent 35 think tanks venus du monde entier. Donc, il y a des Trumpistes, il y a des Chinois, il y a du Parti communiste, enfin, il y a tout. Et donc, ça donne l'image de ce que pourrait être, dans les années qui viennent, cet événement majeur, je rappelle, qui est gratuit, qui est donc ouvert à toutes et à tous, et qui est quand même une réunion de 3 catégories de personnalités, les académiques, nous tous, évidemment le Cercle des économistes, mais bien d'autres, des institutionnels, gouverneurs de banques centrales, ministres, il y aura peut-être une des personnalités les plus éminentes de notre pays, mais sûrement le ministre de l'économie, enfin tous les ministres qui sont toujours là. Et troisième catégorie, les chefs d'entreprise ou les patrons d'entreprise qui seront... Là aussi, donc ce qui marche bien, c'est cette espèce de mélange, un peu comme d'ailleurs Nicolas vous fait avec beaucoup de talent.
Vous dire.
Il m'a demandé de dire du bien de lui. Donc
non, de toute façon, il n'y a pas de politique. Bon, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est de plus en plus international d'année en année, puisque ça fait pas mal d'années que j'y suis, et c'est un élément d'évolution que j'ai parfaitement constaté. Bonjour Cécile Lejeune.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la présidente de Kantar Insight France. Alors, vous avez signé une vaste enquête avec plein d'éléments et notamment des questions sur l'intelligence artificielle. Je fais un petit tour de table juste avant de commencer et de donner la parole à Cécile pour qu'elle nous donne les principaux enseignements qu'elle a retenus. Est-ce que vous avez, en 25 ans, une marque, une personnalité, une technologie qui vous vient à l'esprit comme étant le fait marquant des 25 ans ?
Enfin, la réponse facile, c'est quand même l'arrivée de l'iPhone, enfin, ouais. Les premiers smartphones, quoi. La keynote de Steve Jobs, c'est un moment révolutionnaire.
2007.
Je veux dire, ça a complètement transformé nos vies. Donc, voilà, c'est la réponse probablement la plus facile. Désolé, je la vole.
Les tenants de la théorie de la stagnation séculaire considèrent que c'est la dernière innovation de rupture de l'histoire humaine récente.
Voilà. Ouais, on pourrait parler de l'intelligence artificielle pour le coup, parce que pour le
ChatGPT.
Ouais. Ouais, ChatGPT. Bon, ChatGPT. Jean-Hervé, une personnalité,
une personnalité. La personnalité que j'admire le plus, c'est Bill Gates.
Ouais.
Et j'admirais parce qu'il est à la fois un espèce de génie, vraisemblablement un peu compliqué dans sa tête, mais génie à la fois en technologie et puis cette capacité aujourd'hui de montrer une espèce de rupture totale et sur son rapport à l'argent, la manière dont il l'utilise et sa capacité de traiter de sujets qui au départ n'avaient rien à voir, c'est-à-dire au fond prendre en charge des problèmes de santé en Afrique. Ce type est un génie absolu.
C'est d'ailleurs la plus ancienne, je crois, des 7 magnifiques, puisque Microsoft est dû voir le jour en 75.
Oui, c'est ça.
Alexandra.
Moi, j'aurais dit l'iPhone aussi.
Ah, l'iPhone.
Donc,
c'est plutôt la bonne pioche,
Cécile Lejeune. Je confirme que pour l'unanimité des Français, parce qu'on a interrogé 1000 Français qui représentent la population française, et pour la majorité des Français, c'est le smartphone qui effectivement a révolutionné les 25 dernières années et qui est devenu essentiel à leur vie. On a même effectivement avec l'iPhone smartphone, le Wi-Fi et la connexion, en fait, qui aujourd'hui est plus essentielle que, enfin, sur la pyramide de Maslow, que la nourriture et la, voilà. Et ah ouais. La boisson. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, pour eux,
on
c'est vraiment.
Se passer de nourriture et de boire que oui. De se passer de son téléphone oui. 4G.
Temporairement, quand même. Parce
oui,
que,
oui. Vraiment, temporairement. Problème, mais... C'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est, en fait, vraiment essentiel, puisqu'ils, en fait, ils le font par habitude. Mais aujourd'hui, quand on leur demande quelle est la chose la plus essentielle pour vous, c'est le téléphone. C'est le téléphone et la connexion Wi-Fi.
Je sais pas, il avait fait un effet bœuf un jour dans une université en disant, bon alors, imaginez qu'on vous supprime l'eau courante ou qu'on vous supprime le smartphone. Et là, c'est vrai que les gens hésitaient quand même.
Eh bien, vraisemblablement maintenant, de moins en moins. Et puis alors, sur la personnalité, je suis désolée, hein, les Français répondent, et en grande majorité, à 39%, Elon Musk... Ouais. Donc pour les Français, c'est Elon Musk qui marque la personnalité qui marque les 25 dernières années.
Je pense que ça se joue entre lui et Steve Jobs, hein, de toute façon.
Voilà. Et alors après, il y a Steve Jobs à 13%. Quand même, l'écart est malheureusement... Enfin, non, pardon, j'ai rien dit. Je n'ai pas dit malheureusement. L'écart est important.
Et c'est peut-être aussi parce qu'Elon Musk a été très présent dans le débat. Malgré tout, il y a un effet de salience un peu
bien
Steve
sûr.
Jobs. Peut-être que certaines
exactement.
Personnes n'ont pas forcément complètement...
À votre avis, c'est qui le Français?
Bon, moi, je l'ai vu, alors je ne réponds pas.
Vous aviez Niel?
Ouais.
Niel,
mais à 2%.
Bon.
Ah ouais. Ça fait pas beaucoup.
Ah, c'est peu. Ouais,
hein
c'est
très bien. Faut parler des Français. J'ai entendu ce matin qu'on parlait de Fidji. C'est bien. Faut parler des Français
personne
et des Françaises.
Arthur Mensch ?
Non. Je suis désolée.
Le fondateur, un peu jeune, ouais. Ouais. Fondateur de Mistral.
En revanche, quand on demande quelles sont, alors je parlerai de l'IA après pour Mistral, mais quand on demande quelles sont les marques qui oui. ont marqué la technologie sur les 25 dernières années, bon, la première, c'est facile.
C'est Apple.
Voilà. Oui. La deuxième, c'est Samsung. Ouais. Mais la cinquième, donc après Google et Microsoft, c'est ChatGPT, déjà. D'accord. Mais on a posé sur les 25 dernières années, on n'a pas dit, mais ChatGPT monte en, quand même en cinquième position, déjà. Donc c'est là où on voit quand même qu'en l'espace de 2 ans et demi...
Il faut rappeler que c'est le produit technologique dont l'adoption est la plus rapide de l'histoire.
Ouais. Ah bah oui, oui.
C'est absolument dingue, c'est-à-dire plus rapide que TikTok, plus rapide que n'importe quel smartphone ou service internet. Donc ça se reflète bien dans les chiffres.
Oui, et d'ailleurs, quand on a après posé des questions plus spécifiquement sur l'IA, on voit d'abord que quand on demande aux Français, et à nouveau, hein, on a interrogé les Français de 16 à 70 ans, hein, donc il y a vraiment une palette et toutes les classes sociales. Quand on leur demande s'ils connaissent un outil d'IA, ils répondent oui à 85%, et à 74%, c'est ChatGPT, évidemment. Mais quand même, 85% des Français connaissent un outil d'IA, et quasiment un Français sur deux a utilisé un outil d'IA. Ce qui est énorme, hein, quand même. En l'espace de 2 ans et demi, c'est. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à ces chiffres-là.
J'ai été étonné aussi sur la notoriété des autres marques d'IA.
Oui.
Alors, effectivement, il y a ChatGPT, bon, c'est le grand gagnant. Mais même Gemini, je crois que c'est plus de 50% des Français.
Oui,
ce qui m'a beaucoup étonné.
Tout
plus de 50%
fait,
des Français connaissent Gemini.
Mes anti-sèches,
c'est énorme.
54% des Français connaissent Gemini, ce qui est énorme.
C'est énorme, oui.
Et Mistral, le chat, quand même, qui est à 13% des Français qui connaissent le chat. Ce qui est plutôt bien, parce qu'au moins là, enfin, il y a un Français, donc c'est bien.
C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve que... oui, on sait que l'Europe a eu un problème par rapport aux États-Unis dans les 20 dernières années de pas assez adopter, en fait, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est en partie la cause de notre décrochage de productivité. Donc, le fait de se dire que l'IA est quand même massivement connue et adoptée, alors il faut savoir... utiliser pour quoi faire, bien sûr, mais si on peut espérer que c'est utilisé, entre autres, pour travailler, etc., et obtenir des gains de productivité, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, oui, alors effectivement, je vais vous répondre sur pourquoi faire. Il y a un autre fait intéressant. Ils sont 14% à déclarer qu'ils ont déjà utilisé un agent d'IA. 14%.
Ah bon ? Ils savent ce que c'est, un agent d'IA ?
Alors, vous poser la question.
Nous n'avons pas détaillé, mais en même temps, quand on leur demande, ils l'utilisent. Pour quel usage ? Alors effectivement, le premier usage, c'est tout ce qui va être texte, effectivement production de contenu et effectivement tout ce qui est devoirs, études et pro. Ça, c'est les premiers usages. Mais derrière, il y a des usages très intéressants qui montent. Entre autres, en troisième, c'est les achats. Donc là, on peut se dire peut-être qu'ils ont un peu conscience de ce que c'est qu'un agent d'IA, peut-être.
Ouais.
Les voyages. Donc c'est pour ça que je me dis que finalement, quand ils répondent 14%, c'est c'est bien.
Enfin,
c'est
les agents IA, ils sont même pas encore disponibles pour le grand public.
Mais on va opérateur n'est pas disponible.
Voilà. En gros, l'IA générative, c'est l'IA qui répond aux questions que je lui pose, ChatGPT, le chatbot, etc. Et l'agent IA ou l'IA agentique, c'est l'IA qui va plus loin. Elle va pas seulement répondre, elle va réaliser des tâches pour moi. Donc, elle peut par exemple réserver mes prochaines vacances en se débrouillant toute seule, en allant chercher, réserver sur le tour opérateur directement sur l'ordinateur, sans que je n'ai plus besoin de rien faire. C'est ça l'IA agentique. C'est la prochaine étape.
J'ai eu le témoignage tout récemment de quelqu'un qui a monté comme ça un week-end avec un agent IA.
Ben voilà.
Avec l'intégralité de la panel de services souhaité sur l'endroit où se déroulait l'événement.
Donc ils en ont conscience et ils commencent.
Et donc vous vous êtes intéressé aussi chez Kantar sur l'utilisation de l'IA, la perception de l'IA et tout ce que l'on peut retenir sur les quelques... Enfin voilà, je vous laisse me donner les principaux éléments à garder en tête.
Sur les usages, ce qui est intéressant, c'est que donc au-delà des usages classiques dont je viens de parler, quand on regarde par âge, ils sont un tout petit peu différents.
Et alors,
ce qui est normal. Alors,
je comprends pourquoi je suis en queue de peloton.
Alors, les 16-24 ans, c'est assez étonnant. Après l'usage pour leurs devoirs et leurs études, il y a les recettes. Ouais. Les recettes. Mm-hmm. Je ne m'attendais pas à ce que ça monte autant. Et juste après, il y a le développement personnel. On l'a vu aussi aux États-Unis. L'IA est de plus en plus utilisée par les jeunes pour un accompagnement psychologique. Et ça ressort aussi en France. Franchement, j'étais étonnée de voir ça. C'est pareil pour les 25-34 ans. Le développement personnel et le sport sont les deux usages après les études et la vie professionnelle.
Ça, il y a un vrai sujet, y compris de dépendance émotionnelle qui va arriver autour de l'intelligence artificielle. On le voit dans la façon dont les plus gros utilisateurs de ChatGPT utilisent par exemple des marqueurs affectifs, par exemple, dans la façon dont ils s'expriment à l'IA. C'est-à-dire qu'ils le considèrent non plus seulement comme un outil, mais quasiment comme un confident ou comme un ami.
Et ce qui change aussi avec tous ces usages, c'est qu'on est en train de voir que le moteur de recherche traditionnel commence à perdre un peu de poids. On a entendu récemment, vous savez qu'aujourd'hui, par défaut, quand on a un iPhone, le moteur de recherche, c'est Google. Voilà, c'est un accord qui a été signé. D'ailleurs, il y en a qui versent beaucoup d'argent à l'autre pour l'utiliser. Et là, l'un des patrons d'Apple a dit récemment, vous savez, on s'est rendu compte que 20% des recherches sur le moteur de recherche traditionnel sur l'iPhone avaient disparu. C'était parti ailleurs. C'est parti où ? C'est parti chez ChatGPT. C'est parti chez Perplexity. Et lorsque vous regardez autour de vous, de plus en plus de gens, et pas uniquement les techs, quand ils ont quelque chose à demander, ils vont directement faire un prompt sur un des moteurs, des Perplexity, le chat, ChatGPT, plutôt qu'aller vers les moteurs de recherche. Ce qui interroge beaucoup de choses, parce que l'usage, la première chose, c'est le modèle économique. Alors, ça touche Google, mais derrière, ça touche Google, ça touche tous ceux qui font la publicité. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la même manne financière auprès d'un ChatGPT ? Et puis, il y a autre chose dont on parlera aussi certainement, c'est l'impact environnemental, parce qu'il ne faut pas oublier que faire des requêtes ChatGPT, on consomme de l'eau, on consomme d'électricité beaucoup plus que quand on fait une requête Google traditionnelle.
33% des Français sont d'accord avec vous sur l'impact environnemental.
C'est beaucoup plus consommateur d'énergie d'aller sur de l'intelligence artificielle générative que d'aller sur Google. On a 4 minutes 20 avant de marquer la pause dans cette émission. Qu'est-ce que je retiens encore sur les éléments de l'enquête Kantar sur les 25 ans d'innovation dans nos vies, Cécile Lejeune ?
Le dernier point qui est assez intéressant, c'est qu'on a demandé aux parents s'ils acceptaient que leurs enfants utilisent l'intelligence artificielle. Et là, les chiffres sont assez surprenants. Donc, pour des enfants de moins de 11 ans, les parents déclarent à 47% qu'ils autorisent leurs enfants à utiliser l'intelligence artificielle.
En sachant pertinemment à quoi ça peut servir et à quoi ça peut conduire.
Oui. Alors que pour des enfants qui sont au lycée, on arrive à 65%. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les parents même encouragent leurs enfants à utiliser l'intelligence artificielle, à 46% pour des enfants qui sont au lycée, par exemple. Donc, on est vraiment sur, d'abord, des parents qui pensent que c'est bien que leurs enfants utilisent l'intelligence artificielle, qui les encouragent à le faire, ce qui est un sujet pour l'éducation, parce que je ne suis pas sûre que tous les professeurs soient d'accord avec ça.
Tout dépend comment on l'utilise.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer ? Ravi, quand j'avais 10-15 ans, d'avoir une intelligence artificielle qui permettait de répondre aux problèmes.
Oui, mais on peut aussi s'en servir. Par exemple, là, il y a le bac qui approche, c'est « fais-moi des fiches de révision pour le bac ». On lui donne tous nos cours et il va nous en faire une synthèse absolument précise. C'est « fais-moi un petit quiz sur la Seconde Guerre mondiale, les dates », et puis il va... à voix haute, hein, je veux dire, et je vais avoir comme un prof qui discute avec moi et qui me fait une interro à la minute, en fait, et qui va pouvoir s'adapter, y compris à mon niveau de compréhension, pour me poser des questions un petit peu plus faciles ou un petit peu plus difficiles. C'est aussi cet usage-là, s'il est bien encadré, ça peut être un outil de révision.
Cher Anthony, quand même.
Oui. J'étais très discret depuis le début de l'émission.
Oui, parce que les résultats sont très passionnants. Mais l'utilisation même de ce terme d'intelligence artificielle, mais d'intelligence, donne le sentiment en réalité qu'on est confronté à quelque chose qui apporte une espèce de surplus intellectuel.
L'intelligence augmentée.
On parle sous le contrôle d'Alexandra, qui est une vraie économiste de fond. Je veux dire, l'intelligence est évidemment un tout peu plus riche que celui d'une présentation de fiches de formation.
Donc, bien sûr.
Faut faire très attention à ça. On voit ce que j'ai d'une banalité absolue. Ça n'est pas de l'intelligence au sens strict. C'est de la compilation très, très astucieuse, très formatée, très talentueuse, et c'est formidable. Mais faisons attention, juste qu'une société intelligente, c'est une société qui réfléchit, et on ne réfléchit pas avec une machine.
Pour la partie éducation, je pense qu'il faut quand même revoir tout ça. Il y a quelques mois, Elisabeth Borne a dit, voilà, on va donner aux élèves de 4e, de 2e, un apprentissage, enfin des cours d'apprentissage à l'IA. Mais je pense que là, on fait fausse route. Pour moi, c'est chaque prof en histoire, ben voilà, comme le disait Anthony, le prof d'histoire, ben il doit faire son cours d'histoire, mais il doit travailler avec aussi ses élèves autour IA histoire, enfin comment on va l'utiliser l'IA pour faire des fiches, pour se poser des questions, pareil en maths et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout le cursus. C'est pas uniquement donner quelques heures, 6 heures de cours par semaine pour dire voilà ce qu'est l'IA, et puis retourner en cours de maths, en cours de français, d'histoire géo, tout ça. C'est vraiment chaque prof qui doit. Et là, il y a une profonde révolution, parce que on pourra en pas empêcher quand j'entends les enfants de 11 ans. Moi, j'en ai un de 14 ans chez moi, c'est sans réflexe. Il ne se pose même plus la question.
L'histoire, c'est que les chiffres que donne Cécile Lejeune, je pense que c'est évidemment la solution de facilité qui est la plus tentante, beaucoup plus que la solution de
Le problème, c'est quand même le rapport à l'effort. C'est-à-dire que oui, c'est très bien pour faire une fiche plus rapidement, mais une partie de faire la fiche, c'est pas seulement apprendre, c'est apprendre l'effort, quoi. Que en fait, quand même, une partie de nos études, on a appris ce que c'est que l'effort, et qu'il y a un lien entre l'effort et la réussite. Donc on perd un tout petit peu ça. C'est ça le. Mm-hmm. Je pense qu'il faut absolument s'appuyer sur l'intelligence artificielle, y compris dans l'éducation. Mais il faut faire attention au sentiment de facilité que ça peut donner.
Il y a une question que je vais poser à Christine.
Et elle donnera la réponse juste après.
Elle donnera juste après. Est-ce qu'il y a, il y a eu cette segmentation par l'âge? Moi, j'aimerais qu'il y ait une segmentation par le niveau social. Savoir comment les niveaux sociaux... Moi, ce qui me frappe dans nos sociétés, c'est évidemment segmentation absolue, dans tous les domaines. Est-ce que ça renforce ou est-ce que ça amoindrit cette segmentation qui explique beaucoup de phénomènes de violence de nos sociétés?
On marque une pause. Dans un instant, on répondra à cette question avec Cécile Lejeune, et puis on va décliner les quelques-uns des thèmes que j'ai évoqués. Intuitivement, je me dis, oui, mon chéri, va utiliser l'intelligence artificielle tant que tu veux. Intuitivement, je trouve ça plutôt inquiétant. Mais j'ai bien dit intuitivement. On se retrouve d'ici quelques instants, à tout de suite, pour cette émission spéciale 25 ans de l'émission De quoi je me mêle.
Les experts de la tech sur BFM Business.